Alors, avec cette question, qu'est-ce que le calvinisme? Nous sommes aussi dans les figures imposées, dans les exercices imposés. Et il me semble indispensable, en préambule à cette étude, qu'est-ce que le calvinisme? Il me paraît indispensable de préciser le cadre de cette étude. Quelle est la question précise à laquelle nous voulons répondre en demandant qu'est-ce que le calvinisme? De préciser davantage quelle est la question qui nous préoccupe. Alors, la première chose à dire, aussi curieux que cela puisse paraître, c'est que ce qui nous intéresse aujourd'hui en posant la question « qu'est-ce que le calvinisme ?», eh bien, ce n'est pas directement de savoir quelle est ou quelle fut la pensée de Calvin. La pensée de Calvin, en tant que telle, intéresse certes l'historien de l'Église, en premier lieu, mais ne reflète pas nécessairement sur tous les points les idées professées aujourd'hui par ceux qui se disent calvinistes. Parler d'une Église réformée, parler d'une faculté de théologie réformée, c'est, j'espère, autre chose que parler d'un conservatoire ou d'un conservatoire des idées de Calvin ou d'une sorte de musée de la foi du XVIe siècle. Si je me dis calviniste aujourd'hui, cela ne veut pas dire que je souscrive sans restriction à tous les points de l'enseignement de Jean Calvin. Mais cela veut dire positivement que je reconnais dans l'enseignement du réformateur une des traductions, une des expositions du message biblique les plus rigoureuses, les plus fidèles qui aient existé au cours de l'histoire de l'Église. Et comme nous l'a dit hier soir le pasteur du Moulin, nous disons pas calvinistes de la même manière que nos adversaires reconnaissent être papistes. Si donc la pensée de Calvin nous intéresse aujourd'hui, ce n'est pas pour elle-même, mais c'est en tant qu'expression du message biblique. C'est en tant qu'expression de la foi de l'Église chrétienne. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, la pensée de Calvin n'est pas, j'allais dire, exclusive. Il suffit à cet égard d'ouvrir et de feuilleter son institution chrétienne pour mesurer à quel point la foi de Calvin était imprégnée, nourrie, enracinée de celle des pères de l'Église, en particulier de celle de saint Augustin. Donc, l'enseignement de Calvin, aussi étrange que cela puisse paraître, l'enseignement de Calvin prétend à la catholicité. Il se veut la traduction de la foi de l'Église universelle d'alors et de toujours. Et c'est pourquoi être calviniste n'implique pas non plus d'avoir une attitude négative à l'égard de tout développement ultérieur de la théologie. Un peu comme si Calvin avait bâti un édifice auquel plus rien ne puisse être ajouté, dont aucun élément ne se prête à être développé, à être affiné, et même, pourquoi pas, à être corrigé. Un peu comme si l'histoire de l'Église s'était arrêtée au XVIe siècle. Il se trouve que de l'école à laquelle on va donner le nom de Calvin, le réformateur, en réalité, va en poser ni la première pierre, ni la dernière. Elle est une école qui plonge ses racines dans le Nouveau Testament, dans la Bible elle-même, et c'est une école qui reconnaît comme sien tous les théologiens qui, au cours de l'histoire de l'Église, que ce soit d'hier ou que ce soit d'aujourd'hui, dont la réflexion s'inscrit dans la même perspective, dans cette même orthodoxie. Et c'est donc de propos délibérés que je m'abstiendrai dans cette double exposé de citer Calvin à tout propos. Car ce n'est pas la pensée de Calvin en tant que telle qui nous intéresse aujourd'hui. La question « est-ce que Calvin a dit ou est-ce que Calvin n'a pas dit ?» ne nous intéresse que de façon secondaire dans cette étude. Mais ce qui nous intéresse, c'est de savoir quel est l'enseignement de la Bible, quelle est la foi de l'Église universelle catholique, dont Calvin a été certainement un des plus brillants porte-parole. Maintenant, il faut dire que si le calvinisme prétend à la catholicité, l'inverse, par contre, n'est pas vrai. C'est-à-dire que tous ceux qui se disent chrétiens, tous ceux qui ont eu droit de citer dans l'Église chrétienne, malheureusement, ne reconnaissent pas nécessairement dans le calvinisme l'expression de leur foi. Au sein même du protestantisme, tous ne sont pas d'accord sur la signification de la foi chrétienne. Aussi grande que puisse être sur certains points la convergence des luthériens, des zwingliens, des calvinistes, des anabaptistes, des arminiens, des piétistes ou des disciples de telle ou telle école moderne de théologie protestante, tous ces mouvements, bien qu'ils se situent dans le cadre du protestantisme, ne sont pas d'accord ultimement sur la signification de l'Évangile, ni réconciliables dans leur compréhension de la foi chrétienne. C'est pourquoi il nous faut faire aujourd'hui un pas de plus. Et même si le calvinisme prétend être le christianisme, on ne peut pas se contenter de dire « le calvinisme, c'est le christianisme ». Il faut aller plus loin, il faut chercher à préciser ce qui fait son identité, à définir ce qui lui est propre, ce qui le distingue théologiquement des autres écoles nées du protestantisme. Et cette question a donc aussi aujourd'hui pour chacun d'entre nous une signification concrète, très concrète, car dire ce qu'est le calvinisme, ce qui le distingue des autres écoles issues de la Réforme, c'est aussi dire quelle est aujourd'hui notre raison d'être. Quelle est aujourd'hui la raison d'être d'une Église réformée confessante au XXe siècle? Qu'est-ce qui justifie la réouverture de facultés de théologie réformée ou d'un travail de reconstruction réformée? Quelle est aujourd'hui même la raison d'être, l'opportunité théologique d'une pastorale comme celle que nous vivons ici à Dijon? Tout cela, me semble-t-il, ne se justifie que dans la mesure où le calvinisme a aujourd'hui quelque chose à dire qui ne l'est pas nécessairement par d'autres. Quel est donc ce quelque chose? Eh bien, on recevra sur ce point de la part des calvinistes différentes réponses. On parle le plus souvent d'une théologie qui accentue, qui prend au sérieux la souveraineté de Dieu. On peut citer par exemple le titre du livre de Parker, « Le Dieu souverain ». Je pense aussi au dans le dernier Kerux du mois de février, nous lisons sous la plume de Kennedy l'explication suivante. Seul le calvinisme exalte pleinement Dieu et remet l'homme à sa vraie place. Dans la même perspective, c'est souvent la notion de prédestination ou d'élection qui est évoquée pour définir la spécificité théologique du calvinisme. L'idée d'une grâce qui est à la fois parfaitement libre et gratuite et parfaitement souveraine et efficace. Nous en avons déjà parlé abondamment. Sous un autre angle, on essaye souvent de définir le calvinisme en parlant de la souveraineté de Dieu sur l'ensemble de l'univers. En parlant du règne de Dieu, non seulement comme créateur, mais aussi comme recteur du monde, en évoquant son gouvernement providentiel et universel de grâce générale ou commune, en parlant de sa souveraineté sur le cours et le développement de l'histoire humaine. Et sous cet angle, on présente volontiers le calvinisme en l'opposant au piétisme comme une vision globale du monde, sur la société et son fonctionnement, affirmant la seigneurie de Jésus-Christ sur tous les domaines du savoir et du faire. Et sur ce point, comment ne pas citer la parole bien connue de Abraham Kuyper, « Il n'y a pas de domaine de toutes les sphères de la vie dont le Christ ne puisse dire « c'est à moi ». Il n'y a pas de domaine de toutes les sphères de la vie dont le Christ ne puisse dire « c'est à moi ». Alors, ces différentes propositions sont toutes, je crois, légitimes. On pourrait même allonger la liste. On pourrait parler, par exemple, des moyens de la grâce. Je pense à l'exposé du pasteur Feldhausen sur le rôle de la parole, de la prédication, de la foi, qui est particulière dans le calvinisme. On pourrait aussi évoquer la théologie des ministères. Et si vous soutenez l'une ou l'autre de ces propositions, ou même encore d'autres, rassurez-vous, je ne vous contredirai pas. On se rend compte que ces différentes propositions, quand on en examine les tenants et les aboutissants, ne sont pas contradictoires, qu'elles ne s'excluent pas les unes les autres, mais au contraire se complète et même au besoin se corrige. Et j'aimerais ici attirer votre attention sur l'erreur qui consisterait à vouloir ériger le calvinisme ou la théologie de façon générale en un système clos. Pardon. En effet, il serait tentant, surtout lorsqu'on cherche à donner une définition du calvinisme, de privilégier, de choisir un aspect de l'enseignement biblique au détriment des autres. Ce que quelqu'un a appelé le piège de la cohérence. C'est-à-dire la tentation de rationaliser l'enseignement biblique sous une forme ou sous une autre. C'est-à-dire imposer à la totalité, à l'ensemble de l'enseignement biblique, la nécessité rationnelle d'entrer dans la logique de tel ou tel concept. Et cette tentation, je crois, est particulièrement présente chez les calvinistes. Par exemple, on va faire du calvinisme un système théologique de la prédestination, un prédestinationnisme. C'est-à-dire que parmi tout ce dont Calvin a parlé, on va choisir, élire l'idée de prédestination, et on va ensuite imposer à la totalité de son enseignement la nécessité d'entrer dans la logique de ce concept. On va extraire de la Bible et de la révélation tout ce qui n'entre pas dans cette logique. On va, par une succession de déductions rationnelles, par un jeu de syllogismes successifs, on va en venir à faire dire à Calvin ce qu'il n'a en réalité jamais dit. On va en venir à imposer à la doctrine biblique de la prédestination des implications qu'elle n'a pas. C'est ainsi qu'au nom de la prédestination, certains vont dépouiller la responsabilité humaine de tout contenu tangible. Ils vont couper le ressort, le nerf de l'histoire humaine et vivre dans une sorte dans une attitude de passivité spirituelle, dans l'attente passive d'une manifestation mystique du dessein de Dieu. Et ce sont là les conclusions pratiques désastreuses auxquelles conduisent le fait d'ériger la doctrine de la prédestination en un système rationnel. Et c'est le danger auquel s'exposent en particulier tous ceux qui souscrivent à ce qu'on appelle un supralapsarisme strict, excusez le mot, ou ceux qui s'autorisent de la doctrine de la prédestination pour élaborer un schéma de double prédestination. Je pense en particulier au schéma fait par Théodore de Bèze, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, où il y a un strict parallélisme qui est fait, logique, entre tous les points de l'élection et de la réprobation. Et les canons de Dordrecht eux-mêmes, aussi rigoureux soient-ils, je crois, ne se prêtent pas à ce genre d'interprétation, puisqu'ils nous mettent aussi en garde, le pasteur Denbourg nous l'a rappelé, contre les déductions qui pourraient être indûment ou abusivement faites de la doctrine de l'élection. Le calvinisme ne saurait pas non plus être conçu comme un système théologique de l'alliance. C'est précisément sur ce point que s'est égaré au XVIIe siècle la théologie dite fédérale, je pense ici à Cossélius, c'est d'avoir voulu imposer à l'ensemble de la révélation biblique d'entrer, je dirais, de gré ou de force, dans un cadre rationnel précis, dans un schéma d'alliance. Et en ce qui concerne la théologie fédérale de Cossélius, l'influence du rationalisme et des idées de Descartes est tout à fait officielle et patente. On n'a pas non plus le droit de faire de la notion de providence la clé universelle pour la théologie, une sorte de savoir explicatif. À partir d'un malheur ou d'une catastrophe naturelle, il n'est pas légitime de déduire, de conclure, comme l'ont fait les amis de Job, soit à la culpabilité particulière de ceux qui en ont été les victimes, soit que Dieu serait l'auteur direct de ces malheurs. Donc, en résumé, l'erreur de tout système clos, c'est de vouloir établir impérativement des liens logiques entre les différents dogmes au lieu de s'intéresser j'allais dire, aux dogmes eux-mêmes, tels que l'Écriture les présente. C'est prétendre abusivement posséder une clé universelle permettant de tout interpréter, de tout expliquer. Mais il n'est pas légitime d'imposer à l'ensemble du message biblique cette obligation. Parce que n'importe quel concept, quel qu'il soit, fût-il même la prédestination, l'alliance de grâce, la providence, n'importe quel la logique de tel ou tel concept ne peut être poussée, n'est légitime que dans la mesure où l'enseignement biblique lui-même la confine. Donc, ceci étant dit, à condition de garder donc toujours à l'esprit les limites inhérentes à toute clé d'interprétation, il me semble toutefois possible, opportun, de définir la spécificité théologique du calvinisme en posant une thèse, celle que je vous ai écrite, photocopiée. En disant ce qui fait la spécificité du calvinisme, théologique du calvinisme, c'est de professer que Dieu, par son œuvre rédemptrice, libre et efficace, c'est évidemment une allusion à la prédestination, par son œuvre rédemptrice libre et efficace, Dieu restaure et parfait la création, que Dieu, par l'alliance de grâce, restaure et accomplit l'alliance adamique. Alors je m'inspire ici largement de l'enseignement du théologien néerlandais Herman Bavinck dans sa dogmatique, Reformatie dogmatique, et aussi en partie de la pensée du théologien néerlandais Klaas Schilder dans son étude sur Christ et la culture, Christus en culture, qui, je crois, est aussi traduit en anglais et accessible peut-être chez Ehrenmann, je crois, aux États-Unis. Christ et la culture. C'est une thèse, vous le remarquerez, auquel se rattachent plus ou moins directement les différentes notions que nous avons évoquées. Alors j'aurais voulu, et c'était au départ mon intention, essayer de montrer quel rôle joue cette thèse dans les différents chapitres de la dogmatique réformée. On pourrait par exemple évoquer la doctrine de l'inspiration de la Bible. Quelle est dans cette perspective, qui dans cette perspective devient une inspiration organique et verbale. Il serait aussi passionnant de voir quelles sont dans le Nouveau Testament les implications de cette thèse en matière d'ecclésiologie, l'Église comprise comme peuple de Dieu, comprenant non seulement des individus, mais aussi des familles. On pourrait aussi parler dans cet éclairage de toutes les questions d'éthique sociale, de l'engagement et de la vocation de l'Église dans la cité des hommes, dans la culture, dans les arts, dans la politique, dans la gestion de toutes les potentialités de la nature et de l'histoire, etc., etc. Mais comme le temps est limité, je vous propose entre aujourd'hui et demain de nous concentrer sur une seule question théologique et de voir par un exemple concret quels sont les enjeux pratiques considérables qui sont attachés à cette thèse. Je vous propose pour cela de réfléchir à la question de l'universalité du salut. ce que l'on appelle, d'une façon moins heureuse, le problème de l'universalisme, à savoir quelle est dans l'enseignement biblique la portée universelle de l'œuvre du Christ. Et si j'ai choisi cette question, c'est qu'elle est sans doute, parmi toutes celles que j'ai énumérées, une des questions les moins bien maîtrisées par les calvinistes et qui mérite, je crois, d'être réfléchie à nouveau, d'être approfondie davantage. Voilà. Vous me suivez jusque-là? La question de l'universalité du salut, c'est un problème assez épineux contre lequel ne manqueront pas de buter tous ceux qui cherchent à approfondir leur connaissance du message biblique. Nous trouvons en effet dans la Bible deux affirmations dont la cohérence n'apparaît pas à première vue. Nous y trouvons d'une part l'affirmation que seuls les croyants sont les héritiers du salut. C'est le salut par la foi seule, sola fide, avec en parallèle l'idée de la perdition des incrédules. C'est ce que nous appellerons la particularité du salut, le salut limité aux seuls croyants. D'autre part, nous trouvons dans la Bible l'affirmation que la victoire du Christ sur le péché est une victoire universelle, que sa royauté eschatologique englobe la totalité de ce qui est dans les cieux et sur la terre. C'est ce que nous appellerons l'universalité du salut. Et à première vue, ces deux affirmations peuvent paraître contradictoires. Merci. À première vue, ces deux affirmations de la particularité et de l'universalité du salut peuvent paraître contradictoires. En effet, dira-t-on, soit la victoire du Christ sur le péché du monde est réelle et universelle, en tel cas, le Christ doit nécessairement être le sauveur de tous les hommes, mais ce doit, vous l'aurez compris, D-O-I-T, ce doit implique, sinon la négation, du moins la relativisation de l'exigence de la foi pour être sauvé. Ou bien alors, dit-on, l'exigence de la foi est absolument incontournable, seuls les croyants sont sauvés, et non les incrédules, mais alors il ne saurait plus être question pour ce salut ni d'universalité, ni de nécessité. Dit autrement, s'il y a une double issue à l'histoire de l'humanité, le ciel et l'enfer, est-ce que le triomphe de la croix, est-ce que la victoire universelle du Christ conserve encore un contenu tangible ? Et s'il y a par contre une issue unique à l'histoire de l'humanité, le salut ou le ciel, alors on ne comprend plus véritablement ce que signifie dans l'enseignement même du Christ, l'appel à la foi pour être sauvé, l'annonce du jugement dernier ou l'annonce même du châtiment éternel. Tel est, en quelques mots, le problème, l'apparent dilemme dans l'enseignement biblique de l'universalité et de la particularité du salut. Alors maintenant, pour sortir de ce dilemme, les théologiens, au cours de l'histoire de l'Église, ont proposé diverses solutions, diverses réponses, lesquelles peuvent toutefois être rangées en trois catégories, en trois types. Il y a tout d'abord l'approche de type, ce qu'on appelle semi-pélagien, celle qui fut défendue sous différentes formes par des théologiens d'appartenance aussi diverses que romaines catholiques, luthériennes, rémonstrantes ou méthodistes. Il y a ensuite la voie dialectique qui est empruntée par la théologie contemporaine. Et il y a enfin, et par contraste, l'approche qui fait la spécificité théologique du calvinisme. Donc trois approches, et je vais, au cours de ces deux exposés, les développer successivement. Je vais aujourd'hui parler des deux premiers, et je vais demain, par contraste et plus positivement, montrer de quelle façon le calvinisme répond à cette question. Alors, il y a tout d'abord l'approche dite semi-pélagienne, qui consiste à résoudre ce dilemme universalité-particularité du salut en coupant la dispensation de la grâce, j'allais dire, en deux morceaux, en deux tranches, en deux stades. En concevant la dispensation de la grâce en deux parties distinctes et juxtaposées. Il y aurait un premier stade de la grâce qui serait dispensé universellement à tout homme, sans aucune exception. En l'occurrence, tous les hommes recevraient, en vertu de la mort du Christ sur la croix, une grâce suffisante pour les éclairer, pour les mettre sur la voie du salut, pour leur donner la capacité de croire. Et ensuite, il est un second stade de la grâce, qui lui, par contre, c'est donc le salut proprement dit, un second stade de la grâce qui serait quant à lui dispensé de façon particulière, de façon limitée, aux seuls croyants, c'est-à-dire à ceux qui ont fait un bon usage de la première grâce, de la première capacité reçue. Et c'est ainsi que l'on parlera de deux grâces, une grâce prévenante et une grâce antécédente, que l'on parlera de deux volontés divines. Ainsi, Thomas d'Aquin, par exemple, dans sa Somme théologique, dira « Dieu, antécédemment, veut que tout homme soit sauvé, mais conséquemment, c'est-à-dire en conséquence de ce qui se passe, il veut que certains soient damnés selon que l'exige sa justice. » Et dans la théologie du Moyen-Âge, on parla en conséquence de deux prédestinations. Ce ne sont pas les deux prédestinations du supralapsarisme. C'est une prédestination à la grâce, premier stade, et un second stade, une prédestination à la gloire. C'est une distinction que l'on retrouvera plus tard, d'ailleurs, dans le luthéranisme, pas le luthéranisme de Luther, mais le luthéranisme du XVIIe et du XVIIIe siècle. Arminius, de même, et après lui les Rémonstrants, parla à ce propos de prédestination à la première grâce, ad primam gratiam, distincte d'une prédestination à la grâce efficace, ad gratiam efficacem. Et du reste, au cours du XVIIe siècle, les théologiens luthériens se sont progressivement rapprochés de la théologie rémonstrante, et même en 1724, le théologien Mosheim déclara que les cinq articles des rémonstrants, ces cinq articles, sont de la pure doctrine luthérienne. Ceci en 1724. Alors, ces différentes propositions, quelles que puissent être par ailleurs leur diversité, s'accordent toutes par le schéma, par la manière avec laquelle elles entendent répondre aux problèmes posés. C'est-à-dire, séparer, couper la dispensation de la grâce en deux morceaux, en deux tranches, en deux stades. La dispensation de la première tranche de la grâce étant universelle et la dispensation de la deuxième tranche étant particulière, limitée aux seuls croyants. Et par ce découpage, on pense aussi du même coup pouvoir préserver à la fois la dimension morale du salut, c'est-à-dire l'exigence de la foi, puisque la première grâce, dira-t-on, est une grâce résistible et conditionnelle, et on pense aussi pouvoir préserver l'efficacité souveraine du salut, puisque la dispensation de la seconde grâce est, dira-t-on, inconditionnelle et irrésistible. Telle fut, à quelques nuances près, la façon dont les théologiens, tant romains catholiques, luthériens, rémonstrants et même méthodistes, ont répondu aux problèmes posés. Et telle est encore aujourd'hui la façon de poser le problème qui est très populaire, qui est très répandue, j'allais dire dans une certaine mentalité évangélique, si je puis me permettre. Il est frappant d'entendre dans des églises évangéliques, même qui se disent réformées, il est frappant d'entendre dire, par exemple, que Jésus est mort sur la croix pour offrir le salut à tous les hommes. Il est frappant d'entendre dire que le salut est comme un chèque que Dieu offrirait à tout homme, mais dont la validité dépendrait de la signature que celui-ci voudrait ou non y apposer. Alors, ce qui fait la force de ce découpage de la grâce en deux morceaux, en deux stades, je dirais, c'est sa simplicité, sa rationalité. Il est logique, il est facilement accessible à la raison, et il supprime même jusqu'à l'apparence de la dualité. La relation avec Dieu, de Dieu avec les hommes est représentée par l'image d'une offre et d'une réponse. Dieu offre sincèrement la grâce à tous les hommes, et tous, en conséquence, sont justement sauvés ou condamnés, les uns pour l'avoir reçu, les autres pour l'avoir rejeté. Alors ça, c'est la façade. Toutefois, si on regarde les choses d'un peu plus près, on s'aperçoit que ce type d'argumentation ou d'idée se retourne très rapidement contre les intentions de celui qui y recourt. C'est ce que j'appelle un argument boomerang. En effet, l'intention avouée de ce découpage, c'est au départ de défendre la grandeur de l'œuvre du Christ. C'est de défendre son universalité. C'est de s'opposer au particularisme, c'est-à-dire à la doctrine selon laquelle Jésus-Christ sur la croix n'a pas porté le péché de tout homme, mais uniquement des élus. Doctrine qui, dit-on, est un rétrécissement impie, voire blasphématoire, de l'œuvre du Christ. Mais lorsqu'on examine cet argument plus attentivement, on se rendra compte que ce discours, en réalité, sous prétexte de sauvegarder l'œuvre du Christ, va en réalité la trahir de la façon la plus perfide. Alors ici, quelques remarques. En premier lieu, la manière dont est ici expliquée la moralité du salut, sa dimension morale, c'est-à-dire l'exigence de la foi, ou la moralité de la perdition, par l'acceptation ou par le rejet de cette grâce antécédente, cette explication témoigne, en premier lieu, d'une méconnaissance de la nature même du péché et de la nature même de la grâce. Je m'explique. Cette approche conçoit la perdition de l'homme de telle manière que celle-ci eût été injuste si elle n'avait pas été en quelque sorte compensée ultérieurement par une offre de grâce, par un plan rédempteur faisant partie du même système. Alors ceci n'est rien de moins, il faut le dire, que la négation de la culpabilité universelle au sens où l'Écriture la conçoit. Culpabilité qui fait que même si Jésus-Christ n'était pas venu sur la terre, la condamnation de tous les hommes eût été parfaitement juste et morale. Ensuite, et pour la même raison, c'est aussi une négation de la grâce. Car dans la mesure où cette grâce antécédente est due, elle perd ce qui fait d'elle précisément une grâce, c'est-à-dire son absolue gratuité. La dispensation universelle de cette grâce antécédente est ici une obligation sous laquelle Dieu est placé s'il veut être juste, et non un don purement gratuit. C'est le premier problème. En second lieu, ce découpage, comme nous l'avons vu, cherche ou prétend préserver la moralité du salut, l'exigence de la foi, et sa souveraineté efficace. Et ceci en disant que la dispensation de la première, du premier stade de la grâce est conditionnelle, résistible, et que par contre, la dispensation du second stade de la grâce est inconditionnelle, irrésistible. Mais en fait, rien n'est moins exact. Car dans cette perspective, c'est en réalité la première grâce qui est inconditionnelle. C'est cette première grâce qui est dispensée à tout homme indifféremment et indépendamment de toute disposition morale. Tout homme jouit de cette grâce, quel que soit l'usage qu'il en fasse. Elle est aussi inconditionnelle qu'elle est universelle. Même on pourrait dire que la façon dont est conçue cette dispensation de la grâce s'apparente en quelque sorte à un déisme, c'est-à-dire que Dieu dispense à tout homme, on devrait dire à la nature humaine, une nouvelle capacité, puis il demeure le spectateur passif de sa bonne ou de sa mauvaise utilisation. Dans cette perspective, l'homme est, pour ainsi dire, un être automobile, c'est-à-dire que une fois qu'il a été mis en mouvement par Dieu, il peut avancer de lui-même. Et par contre, c'est la dispensation du second stade de la grâce, le salut proprement dit, celle que l'on voudrait être inconditionnelle et irrésistible, qui se trouve ici, en réalité, devenir conditionnelle. Parce que c'est elle qui est dépendante, ultimement, du bon ou du mauvais usage qui est fait de la grâce antécédente. Puisque Dieu accorde son salut qu'à ceux qui ont fait un bon usage de la première grâce reçue. Le salut, dans cette perspective, devient donc une réalité conditionnelle et résistible. Alors, le langage est trompeur. Si on lit les thèses rémonstrantes sur la rédemption, par exemple, elles sont très séduisantes de prime abord. Je lis, par exemple, dans les sentences rémonstrantes, Sententia Remonstrantium, le prix de la rédemption que le Christ a offert à Dieu son Père n'est pas seulement suffisant en lui-même et par lui-même à la rédemption de tout le genre humain, mais il a aussi été payé pour tous les hommes, en général et en particulier, pro omnibus et sigulis omnibus, selon le décret, la volonté et la grâce de Dieu. Ça, c'est la façade. Seulement, si l'on pousse plus loin l'investigation et l'on demande aux rémonstrants de préciser quelle est pour eux la signification de cette rédemption universelle, alors on ne manquera pas d'être surpris. Par le Christ, disent-ils, Dieu a voulu faire la paix avec tous les hommes pécheurs. Par le Christ, disent-ils, Dieu a voulu faire la paix avec tous les hommes pécheurs et leur ouvrir la porte du salut éternel. Ce n'est donc pas ici, il n'est donc pas ici question du salut proprement dit, mais seulement de sa possibilité. À ce premier niveau, l'œuvre du Christ consiste à rendre les hommes sauvables et non pas à les sauver. Et comme ce schéma, ainsi que nous l'avons vu, veut subordonner la dispensation du salut à la libre utilisation de cette première grâce, c'est bien en définitive à cette seule possibilité que se réduit l'œuvre souveraine et efficace de Jésus-Christ. Ainsi, sous couvert de défendre la grandeur de l'œuvre du Christ, ce découpage de la grâce en deux morceaux, en deux stades, dépouille en réalité la doctrine biblique de la grâce de tout ce qui fait sa force et sa grandeur, c'est-à-dire la bonne nouvelle d'un salut absolument gratuit et parfaitement efficace. Et c'est pourquoi le consensus helvétique, en 1675, dans une perspective apologétique analogue, c'est-à-dire contre l'idée d'universalisme hypothétique de Moïse Amiro, c'est pourquoi le consensus helvétique refuse l'idée que le Sauveur a seulement ôté l'obstacle que formait contre nous la justice divine et déclare cette opinion être opposée à l'Écriture et à la gloire de Jésus-Christ, qui est le chef et le consommateur de notre foi et de notre salut. De telles conceptions, ajoute-t-il, affaiblissent la vertu de sa mort et, sous prétexte de relever son mérite, elles le diminuent en effet. Donc, je crois que c'est pour cette raison que cette doctrine semi-pélagienne a été très violemment combattue par les calvinistes. Il ne s'agit pas d'une question secondaire, il s'agit d'une question qui touche à l'essence même du salut, à son efficacité et à sa gratuité. Et il faut comprendre que pour les calvinistes, par exemple au XVIIe siècle, la victoire du rémonstrantisme n'eût signifié rien de moins du point de vue théologique que l'échec de la réforme et le retour au catholicisme antérieur. Voilà ce que j'avais à dire sur le premier schéma, donc la réponse de type semi-pélagienne. Je ne sais pas si vous avez la force encore d'entendre mon traitement de la théologie contemporaine. On ose continuer? Je vais dépasser un peu l'heure. Alors, au cours du XXe siècle, les théologiens ont cherché une solution à ce problème de l'universalité et de la particularité du salut dans une toute autre direction, d'une façon même qui ne doit rien à la précédente. C'est peut-être même, sans doute, parmi les théologiens contemporains que ce semi-pélagianisme a trouvé ses adversaires, ses pourfendeurs les plus acharnés. Je pense notamment à Karl Barth. Mais il ne faut pas se tromper. La théologie contemporaine n'est pas pour autant particulariste au sens où le calvinisme. Elle se range au contraire résolument dans le camp universaliste, en parlant non pas de la dispensation universelle d'une première tranche de la grâce, mais carrément en affirmant le salut objectif de tout homme en Jésus-Christ. Alors, il convient ici de faire une distinction, de distinguer deux positions dans la théologie contemporaine. Il y a d'une part ce qu'on peut appeler l'universalisme explicite, c'est-à-dire la position de tous ceux qui, comme J.A.T. Robinson, n'hésitent pas à écrire et à affirmer haut et clair que tous les hommes sont sauvés en Jésus-Christ. Et il y a d'autre part l'universalisme que j'appelle implicite de la théologie dialectique, de tous ceux qui, dans le sillage de Karl Barth, se gardent, d'affirmer ouvertement la doctrine universaliste parce qu'ils sont conscients des dangers que présente cette doctrine. Mais toutefois, dont le système théologique implique néanmoins, je dirais, le salut universel comme son corollaire. Donc il faut distinguer là un universalisme explicite d'un universalisme implicite. Mais ceci étant dit, il ne faut pas non plus exagérer la différence entre les deux groupes. Il y a entre les deux, je dirais, l'épaisseur d'un papier de cigarette. Et de l'universalisme explicite, non pardon, de l'universalisme implicite à l'universalisme explicite, il n'y a qu'un pas, que d'aucuns n'hésiteront pas à franchir, comme en témoignent par exemple les récentes prises de position de Jacques Ellul dans son ouvrage « Ce que je crois ». Alors ici, le premier argument qui monte à la bouche des universalistes, c'est en général celui de l'amour de Dieu. Si l'on croit Robinson, par exemple, l'universalisme, dit-il, n'est pas une spéculation, mais il est une affirmation fondée sur la véritable nécessité de l'amour de Dieu. Dans un univers d'amour, dit-il, il n'y a pas de ciel qui tolère la chambre des horreurs. Si Dieu condamnait à l'extinction des millions d'hommes, il aurait échoué, et échoué infiniment. Une complète contradiction serait posée dans l'être même de Dieu. Dieu cesserait tout simplement d'être Dieu. J.A.T. Robinson. De même, pour Jacques Ellul, il ne peut y avoir d'existant en dehors de l'amour de Dieu. Puisque ce Dieu est tout, il est donc impensable qu'existe un lieu de souffrance, de torture, de domination du mal. Il est stupéfiant, ajoute Ellul, qu'une théologie chrétienne n'ait pas vu ce qu'il y a d'impossible dans cette invention. Alors, il y a ici, derrière ces propos, une intention qui est juste. Il est vrai que le Dieu dont parle la Bible est foncièrement un. Il n'y a pas en Dieu de duplicité, il n'a pas deux visages. Sa justice n'est pas l'antithèse de son amour. Mais ceci étant, on ne comprend pas pourquoi Robinson, ou Ellul, au lieu de comprendre, de réfléchir aux attributs de Dieu les uns avec les autres, les uns par les autres, sur quelle base il se permet d'établir entre ces attributs une sorte de hiérarchie, et surtout de placer à son sommet un amour de Dieu dont il a lui-même au préalable et arbitrairement défini quel devait être ou ne pas être le contenu. Il pose au départ une définition subjective de l'amour de Dieu selon l'image que ses pensées ou ses sentiments personnels lui en donnent. Puis, dans un deuxième temps, il impose à l'ensemble de l'enseignement biblique la nécessité d'entrer dans ce cadre. Alors, il faut comprendre qu'avec une telle méthode, on pourrait tout aussi bien démontrer la thèse inverse. Il suffirait de partir de l'a priori opposé. Du reste, avec une telle méthode, on pourrait démontrer n'importe quoi. Ça rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure sur les erreurs inhérentes à tout système. Et je crois qu'à cet égard, il faut être sur ses gardes dès que quelqu'un vient à imposer à l'exégèse des nécessités ou des restrictions, à définir a priori ce qui est pensable ou ce qui est possible. Nous devrions avoir tout de suite là des petites lumières rouges qui s'allument. Et se demander si on n'est pas ici en train de substituer à une lecture de la Bible la tentative, plus ou moins consciente, de revêtir de l'autorité biblique des idées préétablies, et que la lecture de la Bible n'est pas vraiment susceptible de remettre en cause. Donc si l'on veut maintenant essayer de comprendre ce qu'est l'amour de Dieu à partir de l'ensemble de ce que la Bible nous révèle sur lui, eh bien, force nous sera faite de constater que cet amour de Dieu ne s'oppose pas aux condamnations les plus rigoureuses, même éternelles. Et cet amour de Dieu, ceci est le plus important, cet amour de Dieu, comme toute autre donnée de la révélation biblique, ne s'offre pas en premier lieu à notre raison, à nos sentiments, mais il demande à être cru. On sait que Dieu est amour de la même manière que l'on sait qu'il a envoyé Jésus-Christ ou qu'il a créé le monde, c'est-à-dire par la foi en la parole de Dieu et au-delà du sentiment ou de la compréhension rationnelle que l'on peut en avoir. Comme l'a dit quelqu'un, Henri Blocher, pour ne pas le nommer, ce n'est sans doute pas à nous à donner à Dieu des leçons de miséricorde. Deuxièmement, on retrouve aussi derrière cette argumentation basée sur l'amour de Dieu la méconnaissance de la nature du péché et de la grâce que nous avons déjà signalé plus haut. Le salut universel est ici présenté comme une nécessité de l'amour de Dieu, sans laquelle il serait, je cite, « l'impitoyable justicier au jugement discriminatoire ou le bourreau de la chambre des horreurs ». Alors dire cela, c'est oublier complètement que le gouffre qui sépare Dieu et l'homme est tel que seule la mort du Christ, la mort du Fils de Dieu sur la croix, parvient à le combler. Voilà quelle est la juste mesure de la culpabilité humaine. Et nul, s'il garde cela à l'esprit, ne peut parler du salut comme d'une nécessité, mais toujours comme d'un don absolument libre et gratuit de Dieu. Et c'est pour cette raison que les théologiens du deuxième groupe, la théologie dialectique, l'universalisme implicite, veillent à ne pas durcir l'idée de salut universel en une doctrine. Pour Karl Barth, par exemple, quoiqu'il n'y ait, dit-il, aucune raison d'exclure la perspective d'une réconciliation universelle, il faut se retenir de l'affirmer. Car, dit-il, fût-ce dans l'élaboration des pensées et des propositions qui seraient théologiquement d'une logique et d'une conséquence des plus évidentes, on ne doit pas chercher à usurper ce qui ne saurait être donné et reçu que comme un libre cadeau. Mais il est important de comprendre que ce n'est pas contre l'idée universaliste en tant que telle que Karl Barth ici s'élève, mais c'est contre le fondement sur lequel J.A.T. Robinson et ses pairs entendent l'appuyer, c'est-à-dire une notion rationnelle et anthropocentrique de l'amour de Dieu, qui a le défaut, dit T.F. Torrance, un autre Barthien, de transformer un mouvement en une nécessité. Pour les théologiens du deuxième groupe, s'il peut être question d'un salut universel, ce ne peut être qu'en vertu de la nature même de la grâce. Émile Brunner, par exemple, dira « Ce n'est pas ma foi qui fait que je suis l'objet de l'amour de Dieu. Si c'est donc malgré moi que sa volonté s'accomplit en ma faveur, pourquoi ne devrait-elle pas s'accomplir tout aussi bien en faveur de tous ? Ainsi donc, conclut-il, le message de la grâce inconditionnée renferme en lui-même la connaissance du décret du salut universel. De même, pour Jacques Ellul parle de, je cite, l'acte unilatéral de Dieu qui décide de réconcilier les pécheurs sans discrimination. Tous sont pécheurs et en tant que tels, tous assumés par Jésus-Christ et réconciliés avec Dieu. Alors l'argument ici est beaucoup plus subtil que le précédent, parce qu'il est revêtu d'un, je dirais, d'un vernis évangélique. L'idée universaliste, ici, ne se présente plus, comme chez Jacques Ellul, comme une méconnaissance de la culpabilité humaine ou de l'absolue gratuité de la grâce, mais au contraire comme une implication de cette gratuité. La colère de Dieu, dira-t-on, est tout entière retombée sur le Christ, qui a porté sur la croix la condamnation universelle et, en conséquence, qui a fait triompher la grâce de façon tout aussi universelle. Il y a ici universalisme implicite parce qu'il y a ce que l'on appelle une concentration christologique. L'idée que, en Jésus-Christ, tout homme est à la fois réprouvé et élu. Dans leur relation dialectique, dit Émile Brunner, la perdition universelle et la réconciliation universelle s'impliquent réciproquement. Elles ne sont vraies qu'ensemble. Toutefois, c'est précisément dans ce réciproquement qu'apparaît ce qu'il y a de singulier dans cette approche. Car s'il est juste au regard de la doctrine biblique de la grâce de dire qu'il n'y a pas de sauvé qui n'ait été préalablement condamné, il n'en va pas de même de l'affirmation inverse. Parce que pour les écrivains bibliques, tous les hommes condamnés ne sont pas nécessairement sauvés, mais ceux-là seuls qui croient en Jésus-Christ. Ici, par contre, la condamnation et le salut sont indissociables. Il n'y a pas davantage de condamné qui n'ait été sauvé qu'il n'y a de sauvé qui n'ait été condamné. La réalité de la condamnation est même, dans cette approche, subordonnée à celle du salut. Comme le dit Berkauer dans son étude sur Karl Barth, l'histoire du péché est ici contemporaine de sa conquête par la grâce immuable de Dieu. L'histoire du péché est ici contemporaine de sa conquête par la grâce immuable de Dieu. Alors sur ce point, la théologie dialectique moderne se démarque tout à fait de la théologie réformée antérieure. Et le problème qui se pose, vous l'aurez compris, c'est naturellement de savoir quelle est dans cette perspective la signification que revêt encore la nécessité de la foi. La question éthique, la question morale. En effet, s'il y a en Jésus-Christ condamnation et élection non seulement des croyants, mais de tout homme, la foi joue-t-elle encore un rôle décisif pour l'acquisition du salut? En d'autres termes, qu'advient-il dans cette perspective de la dimension historique ou morale, entre guillemets, du salut? Que veut dire sa particularité? Alors là, la réponse ne se fait pas attendre. La foi, diront les théologiens dialectiques, serait incluse de facto dans la rencontre existentielle entre Dieu et les hommes. Et ceci, de par le caractère bilatéral ou diplérique de l'œuvre de la grâce, puisque le mouvement de Dieu envers moi, dira-t-on, a pour but d'inspirer mon mouvement envers lui. Pour Torrance, c'est précisément la particularité de la doctrine biblique de l'élection d'expliquer l'action universelle de la grâce de Dieu de manière telle que, loin de dissoudre les notions de choix et de décision, elles les établissent. De même pour Robinson, la victoire nécessaire de l'amour de Dieu n'abroge pas notre liberté, mais la réalise tout simplement. Donc, si on allait en croire, ce serait dans cette rencontre existentielle entre Dieu et les hommes que se réconcilient les deux termes de ce paradoxe, la nécessité et la liberté. Alors, ceci étant dit, on ne manquera pas de rester perplexe et de s'interroger sur la signification réelle de la moralité du salut. Lorsqu'on entend ces mêmes théologiens affirmer, à la suite de ce qui vient d'être dit, à l'exemple de Jacques Ellul, je cite, que l'homme soit ou non réconcilié, qu'il veuille faire sa paix avec Dieu, qu'il soit repentant, ne change rien à la décision de Dieu de réconcilier le monde avec lui-même. Cela changera certes la vie de cet homme, mais non sa destination au salut. La réconciliation concerne dorénavant tout homme, musulman, bouddhiste, nazi, communiste, etc. Et je dirais, s'impose à lui, qu'il le sache ou non, qu'il le veuille ou non. Dieu est réconcilié avec lui, même si cet homme n'est pas réconcilié avec Dieu. Dieu est réconcilié avec lui, même si cet homme n'est pas réconcilié avec Dieu. Alors c'est là qu'apparaît, par-delà les apparences et le langage, le gouffre qui sépare la théologie contemporaine de la doctrine de la justification par la foi seule, sola fide. En effet, dans l'enseignement biblique, l'enjeu de la foi n'est rien de moins que le salut lui-même. Celui qui croit au Fils, à la vie éternelle, mais celui qui ne se confie pas au Fils, ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Par contre, dans la pensée universaliste, moderne, la foi n'a pas pour objet le salut en tant que tel, mais uniquement sa connaissance, son expérience existentielle. Pour Karl Barth, par exemple, je cite, « L'illusion que l'incrédule nourrit ne touche pas la vérité, et moins encore y change-t-elle quelque chose, quelle que soit la force et l'habileté avec lesquelles l'homme triche et fraude. Il reste que la vérité est valable aussi pour lui. » Et Karl Barth de donner une illustration qui ne laisse pas de doute sur le sens de sa pensée. « On ne peut pas vouloir se tenir sur la tête, dit-il, sans que, au cours de cette tentative, dans la mesure où on peut l'entreprendre, on voit toute chose être précisément inversée par rapport à leur réalité. Le bas devenant le haut, la droite, la gauche, et inversement. » L'homme peut bien se tenir lui-même sur la tête, mais il ne parvient pas à mettre la vérité sens dessus-dessous. Et dans ce mouvement, Karl Barth va soutenir un peu plus tard la thèse, excusez un petit peu le mot, de l'impossibilité ontologique de l'incrédulité. L'impossibilité ontologique de l'incrédulité. Une thèse que Berkauer explique en disant de même que pour Karl Barth, le péché est ontologiquement impossible parce qu'il ne parvient pas à atteindre ce qu'il veut atteindre, de même, l'incrédulité est une réalité impossible parce qu'elle ne parvient pas à ébranler ce qui, dans la décision divine, est devenu une réalité irrévocable. Il est donc manifeste que la nécessité de la foi dont parlent les théologiens contemporains a un tout autre contenu et quelque chose d'essentiellement différent de ce que la théologie chrétienne antérieure désigne par les mêmes termes. Alors que pour les écrivains bibliques, la foi est une question de vie ou de mort, de salut ou de perdition, la foi n'est plus ici qu'une question de connaissance ou de méconnaissance, d'harmonie ou de disharmonie existentielle avec un salut qui, de toute manière, est. Alors j'aimerais dire en conclusion que nous sommes ici en réalité en présence d'une objectivisation du salut. Une objectivisation qui en repousse le principe en deçà de toute histoire et donc de toute morale. Le salut se trouve en quelque sorte inclus dans un destin qui est antérieur à l'histoire. Il est conçu, pourrait-on dire, comme une réalité préhistorique ou originelle. Alors, il serait excessif de dire que cette objectivisation ôte à l'historicité du salut tout contenu, toute signification. Mais elle ampute néanmoins cette historicité d'une part très importante de sa signification. En un mot, d'une histoire du salut qui a une dimension morale, elle fait une histoire tragique. Parler d'une conception tragique de l'histoire du salut, ce n'est pas dire que le salut est conçu comme une fatalité qui s'abattrait sur l'homme de l'extérieur et indépendamment de toute participation personnelle, mais c'est dire que le salut est conçu comme une irrépressible vocation à l'emprise de laquelle l'homme et l'histoire humaine sont incapables d'échapper. Par contre, dans une perspective biblique, l'histoire du salut revêt une valeur morale parce qu'elle attache à la foi ou à l'incrédulité des individus une importance décisive. La foi, quant au salut, est une exigence incontournable. Jusque dans l'ordre de la grâce, il plaît à Dieu d'établir une continuité entre le présent et l'état éternel. Il n'y a pas de rupture entre le temps et l'éternité. Il n'entre pas dans le dessein de Dieu de sauver les hommes malgré eux ou sans eux, mais ceux-là seuls qui s'approprient par la foi les promesses du salut en Jésus-Christ. Et de là découle une valorisation infinie du temps vécu, parce que l'homme n'a qu'une vie, et dans cette vie unique se joue pour lui l'éternité. Alors, en résumé, nous avons vu tout à l'heure que le schéma semi-pélagien, on vient à sacrifier l'efficacité du salut à son universalité. Et ici, il s'avère que l'universalisme contemporain, par la manière dont il conçoit le triomphe de la grâce, sacrifie en réalité la profondeur de cette victoire à son universalité. La moralité du salut est en quelque sorte sacrifiée à son universalité. Certes, tout homme est sauvé en Jésus-Christ, mais un homme diminué, atrophié d'une partie importante de lui-même, le champ de son histoire, de sa vocation et de sa responsabilité se réduit désormais à vivre en consonance ou en dissonance existentielle avec un salut qui, de toute manière, est inéluctablement et sera.